Merci d'être à l'écoute de RFI, l'actualité du monde en 10 minutes sur la radio du monde. À Paris, il est 4h.
Mathis Limano.
Les titres qui font l'actualité, c'est la situation dans l'est de la RDC. Après Goma, c'est au tour de la ville de Bukavu, au sud Kivu, de tomber aux mains du M23 et de l'armée rwandaise. Sur le plan humanitaire, de nouvelles victimes sont à déplorer. Pas de bilan pour le moment. On écoute un responsable de la Croix-Rouge dans un instant. Des troupes britanniques bientôt envoyées en Ukraine. Le Premier ministre Keir Starmer s'y dit prêt dans une interview à la presse. Il est invité ce lundi à Paris avec d'autres dirigeants européens pour évoquer la sécurité de l'Europe. Et puis en Guadeloupe, une grève perturbe la distribution de l'eau. Habitants et commerçants tentent de s'adapter, vous l'entendrez. Aucun bilan communiqué donc pour le moment, mais de nouvelles pertes en vie humaine seraient à déplorer à Bukavu, la capitale provinciale du Sud Kivu en RDC, passée sous contrôle du M23 appuyé par l'armée rwandaise. De nouveaux blessés de guerre viennent également s'ajouter à la centaine déjà prise en charge depuis début janvier à l'hôpital provincial général de Bukavu, hôpital soutenu par le CICR, le comité international de la Croix-Rouge dont François Morillon est le chef de délégation.
Nous avons reçu dimanche quelques 8 blessés, samedi 2, à la fois des combattants et des civils, et des types de blessures très variées par balle ou par explosif. Ce que je peux vous dire également, c'est qu'il y a encore une centaine d'autres blessés qui auraient atteint l'hôpital de Panzi, qui est soutenu par MSF, et qui donc nous amènerait autour de 260 blessés actuellement. Suite aux pillages qui ont eu lieu dans la journée de samedi, la situation est revenue au calme. Nous avons pu mener ce dimanche une première évaluation dans la ville où nous avons identifié un certain nombre de corps. Nous allons, avec nos collègues volontaires de la Croix-Rouge de RDC, pouvoir intervenir en ville pour s'occuper de ces corps. Nous allons tout faire pour d'ailleurs éviter de créer des disparus en tentant de les identifier du mieux que nous le pouvons.
Un propos recueilli par Amélie Tullet. Le CICR rappelle que toutes les parties ont le devoir de respecter la vie et les biens des civils. Bukavu, Goma et toutes les autres zones occupées dans le nord et le sud Kivu constituent le symbole de notre résistance. Les mots, ce dimanche, du ministère congolais de la communication. Plusieurs dirigeants européens attendus à Paris ce lundi pour une réunion informelle sur l'Ukraine. Emmanuel Macron va notamment recevoir les dirigeants allemands, polonais, italiens ou encore britanniques. Le Premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer, qui s'est d'ailleurs dit prêt à envoyer des soldats en Ukraine. Le président du Conseil européen et la présidente de la Commission seront également là, ainsi que le chef de l'OTAN. Donald Trump a mis l'Europe au pied du mur en annonçant sans concertation des négociations avec la Russie afin de régler la guerre. L'Europe tente donc de réagir, Muriel Paradon.
Face aux prises de positions américaines et à l'accélération sur le dossier ukrainien, les Européens doivent faire plus, mieux et de manière plus cohérente pour assurer leur sécurité. Déclaration de l'Élysée à quelques heures d'une réunion de plusieurs dirigeants européens à Paris. La volonté de Donald Trump de vouloir négocier directement avec la Russie la fin de la guerre en Ukraine a pris tout le monde de court. Les Ukrainiens n'arrêteront pas la guerre tant qu'ils n'auront pas les garanties d'une paix durable, a rétorqué le chef de la diplomatie française ce week-end, et ces garanties, seuls les Européens pourront les apporter. Reste à se mettre d'accord et à savoir jusqu'où les Européens peuvent aller. La réunion de ce lundi doit rassembler un certain nombre de pays et pourrait être élargie par la suite à d'autres. Il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine, mais bien de la sécurité en Europe. La question de l'armement sera cruciale, alors que les budgets consacrés à la défense au sein des pays de l'UE sont pour l'instant limités.
Marco Rubio sera lui en Arabie Saoudite pour entamer les négociations de paix avec des négociateurs russes. La présence d'une délégation ukrainienne encore très incertaine. Avant cela, le secrétaire d'État américain était en Israël, première étape de sa tournée au Moyen-Orient. Aux côtés de Benjamin Netanyahou, il a délivré un message clair. Les États-Unis s'alignent en tout point derrière leur allié israélien. Les deux hommes ont également affiché un front uni contre des ennemis communs. Le premier ministre israélien a promis, je cite, d'ouvrir les portes de l'enfer au Hamas sans retour de tous les otages, menace formulée aussi vers Téhéran, l'Iran accusé d'être à l'origine de tous les maux dans la région. Le gouvernement israélien réunit son cabinet de sécurité ce lundi et envoie une délégation en Égypte pour discuter de la suite de l'accord de trêve à Gaza. Israël qui doit respecter l'accord de cessez-le-feu au Liban. Les mots du chef du Hezbollah, Naïm Qassem, qui estime que c'est au gouvernement libanais de pousser l'État hébreu à retirer ses forces du sud du pays d'ici mardi, nouveau délai imparti dans le cadre de la trêve. Par ailleurs, des frappes de l'aviation israélienne ont été signalées ce dimanche dans l'est du pays. C'est un média officiel qui le rapporte et il rapporte également la mort d'une femme dans un village frontalier, tuée par des tirs israéliens alors qu'elle tentait de rentrer chez elle comme plusieurs autres habitants. C'est une guerre qui dure depuis plus de 40 ans. Le conflit qui oppose la Turquie et la guérilla kurde du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, sur le point d'entrer dans une phase d'apaisement. Un cycle de discussions prometteuses pourrait se conclure prochainement par une déclaration du leader kurde Abdullah Öcalan depuis sa prison turque où il est détenu. Mais avant cela, une visite importante a démarré hier dimanche et se prolongera jusqu'à mardi au Kurdistan irakien où s'est repliée la guérilla kurde. Correspondance à Erbil, Lucas Lazo.
Massoud Barzani, leader historique du Kurdistan irakien, a accueilli ce dimanche à Erbil les émissaires d'Abdullah Öcalan, le fondateur du PKK. Cette délégation joue les intermédiaires entre Öcalan, incarcéré en Turquie depuis 1999, et Ankara, afin de trouver une solution au conflit qui oppose la guérilla pro-kurde et l'État turc. Une déclaration historique d'Öcalan est attendue ces prochains jours. Il devrait inviter le PKK à se désarmer, une perspective incertaine mais qui suscite des espoirs parmi les Kurdes d'Irak. En effet, la guérilla fondée en Turquie s'est réfugiée dans les montagnes du Kurdistan irakien à partir de 1982. Le conflit s'y est déporté, entraînant avec lui son cortège de déplacements forcés et de victimes civiles, 650 depuis 2015, date à laquelle les précédentes négociations avaient échoué. Depuis, la présence militaire turque s'est amplifiée au nord de l'Irak, où les frappes de drones sont quotidiennes. Le message de Öcalan a été bien reçu à Erbil, qui prépare une réponse en vue de finaliser les détails d'un cycle qui pourrait mettre un terme à une guerre qui dure depuis plus de 40 ans. Lucas Lazo, Erbil, RFI.
Le suspect de l'attaque au couteau samedi en Autriche avait prêté allégeance à l'État islamique. Déclaration ce dimanche du ministre autrichien de l'Intérieur lors d'un point presse à Villar, commune du sud du pays où s'est produit l'attaque. Un adolescent de 14 ans est décédé, 5 personnes ont été blessées. L'auteur présumé est un Syrien de 23 ans qui s'est radicalisé en ligne. La Corée du Sud retire DeepSeek de ses boutiques d'applications. Les autorités sud-coréennes veulent prendre le temps d'étudier la manière dont l'intelligence artificielle chinoise traite ses données utilisateurs. DeepSeek avait affolé les marchés boursiers américains à sa sortie, égalant, voire dépassant, les capacités des intelligences artificielles américaines. En Guadeloupe, une grève perturbe la distribution de l'eau. Grève du principal fournisseur sur l'île française, le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement. Alors les habitants s'adaptent comme ils le peuvent. Les chefs d'entreprise, eux, doivent réduire leur activité. Certains sont même contraints de fermer boutique, Sylvie Coffi.
Louisiane tient un salon de coiffure dans la commune de Petit-Bourg et c'est très compliqué.
Vu que les coupures arrivent instantanément, on n'a pas le temps de prévoir. Donc si nous sommes en train de faire une prestation pour une cliente, nous sommes obligés de prendre des réserves de bouteilles d'eau minérale qui coûtent déjà une petite somme et rincer les clientes à l'eau minérale.
Astrid, elle, n'a pas pu se doucher et c'est toute la famille qui est pénalisée.
Je vis sur Bemao, mon père lui vit à Pointe-à-Pitre. En général, on se dit bon, s'il y a à Pointe-à-Pitre, on va aller se doucher, récupérer de l'eau, faire des réserves et tout. Autant dire que quand on est comme ça, on est pris en otage. Donc, on peut pas faire de machine pour laver les vêtements de la semaine, pour reprendre, hein, faire la vaisselle. Quand on est à plusieurs dans une maison pour tirer la chasse d'eau. Et même quand ils renvoient, c'est pas de l'eau potable. Donc, voilà. Donc, maintenant, il faut acheter de l'eau aussi pour pouvoir faire cuire à manger.
Et comme le dit Astrid, elle n'est pas rassurée quand l'eau courante est de retour. Alors, dans toutes les maisons, chacun achète des citernes, fait des réserves et stocke des bouteilles d'eau minérale pour pouvoir tenir jusqu'à la prochaine coupure d'eau.
Sylvie Coffi, Service France d'RFI. Emilia Pérez, le film de Jacques Audiard, repart avec 2 prix au BAFTA, les récompenses britanniques du cinéma. 2 prix qui interviennent en pleine polémique sur d'anciens tweets de son actrice principale, Carla Sofia Gascoigne. Zoé Saldana, elle, a été sacrée meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation d'une avocate dans cette comédie musicale qui porte sur la transition de genre d'un narcotrafiquant mexicain. Le film était nommé dans 11 catégories. Et puis en clôture de la 22e journée de Ligue 1, les Lillois sont allés s'imposer dans le match du soir à Rennes 2-0. Les Rennais réduits à 10 en seconde période. Très bonne opération pour Angers, victorieux à Reims et Strasbourg qui l'a emporté sur la pelouse de Lens. Les Niçois, eux, remontent sur le podium après leur succès sur les Havrais. RFI, il est 4h10 à Paris, une heure de moins en temps universel.